Il y a plusieurs mois déjà, Samuel Bonvoisin a animé une conférence à Reims sur l'hydrologie régénérative. La tactique était là et on devait profiter de cet instant.
Alors c'est une question que je ne me suis pas toujours posée, peut-être même vous, peut-être c'est la première fois que vous posez cette question en voyant le titre de ma conférence. Et pendant longtemps, alors moi j'ai grandi, je suis un enfant de la campagne, j'ai grandi dans une ferme du nord de la France, une ferme en polyculture et élevage. Avec aussi du blé, des betteraves, des pommes de terre, choses qui peuvent s'apparenter un petit peu à ce qu'on peut trouver par ici. J'ai grandi dans une famille où on m'a quand même pas mal transmis des choses sur la thématique de l'eau, et notamment, il y avait un peu deux horizons. Un premier horizon, c'est l'eau, il ne faut pas la gaspiller, c'est important de ne pas gaspiller l'eau. Et la deuxième chose, c'est l'eau, il vaut mieux pas la polluer. Voilà. Alors, ça fait déjà un beau programme. Si on arrive à faire ça, déjà, on a l'impression qu'on a fait un bon bout de chemin. Et pourtant, on n'a pas encore tout à fait exploré le potentiel de ce que ça peut représenter de prendre soin de l'eau, parce qu'on n'est pas encore rentré tout à fait dans ce qui fait une des choses les plus importantes quand on parle de l'eau, c'est que ça fonctionne dans des cycles, les cycles de l'eau. Et ça, moi, je l'ai un peu découvert sur le tard. Alors pourtant, j'ai une formation d'ingénieur, ingénieur agronome en plus, donc on va dire que la nature, le vivant, tout ça, c'est que je suis censé être un peu calé sur le sujet. Mais non, en fait, j'ai découvert beaucoup de choses plutôt récemment à travers des recherches sur le sujet. Alors, je ne suis pas le seul à faire ces recherches-là. Mais du coup, j'ai découvert tout un univers que je ne connaissais pas du tout. Ça m'a d'abord un peu chagriné, autant vous le dire. J'étais même un peu fâché qu'on ne transmette pas ces choses aussi importantes sur les cycles de l'eau. Et puis, finalement, aujourd'hui, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin depuis 2 ans avec cette conférence pour essayer de raconter, de partager des choses sur ce sujet. Alors, je vis aujourd'hui dans le département de la Drôme, je vous l'ai dit. Et je suis actif dans pas mal de structures. Alors ça va vous donner, je vais vous les énumérer, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que je fais dans ma vie. J'ai cofondé l'association drômoise d'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est un ensemble de pratiques très grossièrement qui consiste à essayer de mettre des arbres dans les systèmes agricoles. Alors il y a des formes traditionnelles d'agroforesterie, des formes modernes. J'ai cofondé en 2016 un bureau d'études qui s'appelle Permalab et qui travaille sur les approches régénératives, notamment l'agriculture et l'hydrologie régénérative, on va y revenir après. J'ai aussi travaillé ces 3 dernières années pour une structure qui est à la fois un bureau d'études orienté plutôt paysage, une pépinière agroforestière et aussi un centre de formation qui s'appelle les alvéoles, où j'ai pu pas mal explorer tous ces sujets. Et puis, depuis 2 ans, je suis très actif au sein d'une toute jeune association que j'ai cofondée avec une hydrologue qui s'appelle Charlène Descollonges et un collègue qui s'appelle Simon Ricard. On a créé cette association qui s'appelle l'Association pour l'hydrologie régénérative. Et là, on est vraiment au cœur de ce sujet que je vais vous présenter pendant cette conférence. Alors cette conférence, elle se déroule en plusieurs parties, en plusieurs actes. D'abord, on va revenir un peu aux fondamentaux des cycles de l'eau et je vais vous présenter ce qu'on appelle la nouvelle représentation des cycles de l'eau. Alors j'ai mis « nouvelle » entre guillemets parce qu'en fait, elle a déjà 25 ans, cette nouvelle représentation. Mais c'est quand même important qu'on se raconte ça, parce que sinon on ne peut pas comprendre la suite. Et notamment, on ne peut pas comprendre la deuxième partie qui traite des cycles de l'eau verte. Alors si vous entendez pour la première fois parler d'eau verte, là maintenant, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et puis, ensuite, je vais vous parler de justement cette idée de l'hydrologie régénérative, je vais vous partager des exemples, et puis à la fin, on ouvrira à ce qui peut se passer à l'échelle territoriale, parce qu'on va voir qu'il y a des échelles qui sont plus ou moins pertinentes quand on parle de gestion de l'eau, l'échelle du territoire à minima du bassin versant, une échelle beaucoup plus pertinente que l'échelle, par exemple, du bout de terrain, de la ferme, par exemple, en ce qui me concerne en tant qu'agronome. Je m'applique dans cette conférence et dans ma vie en général la règle des 3 B, ce que je vais vous partager, est partielle et provisoire. Alors partielle parce que là on va passer 2 heures ensemble et qu'en 2 heures on peut pas traiter le sujet de l'eau, impossible. Même 2 jours, 2 mois, 2 ans, il suffirait pas. Donc du coup on va forcément devoir, je vais sélectionner des sujets un peu pour vous, vous amener sur certains sujets plutôt que d'autres. Par exemple on va très peu, voire pas du tout parler de qualité de l'eau dans cette conférence, ce qui ne veut pas dire que la qualité de l'eau, ce n'est pas un sujet qui est essentiel, d'accord ? C'est juste que je suis obligé de choisir. Et que quand on veut aborder trop de sujets, on les aborde moins bien. Donc du coup, j'ai choisi de traiter certains sujets un peu plus en profondeur. Partial, parce que ce que je vais vous raconter, c'est avant tout le résultat de mes propres recherches et donc quelque part aussi de ma propre subjectivité, là où mon élan de curiosité m'a entraîné, d'accord. Donc il y a forcément une dose de partialité derrière tout ça, même si après d'ailleurs on essaie de sourcer, de dire d'où ça vient, pourquoi on dit ça, etc. Et puis provisoire, parce que comme vous le savez, hein, la science c'est jamais quelque chose qui est figé, ça continue d'avancer, d'évoluer, il y a des découvertes régulières, on remet en cause des choses qu'on pensait, etc. Et donc j'essaie de me tenir à jour, et peut-être parmi vous il y a des personnes qui vont apporter encore des nouveaux éléments, des nouveaux éclairages. Donc merci à vous, si c'est le cas, de faire avancer ces sujets ce soir. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça, ou est-ce que vous pensez qu'on peut démarrer? Ah oui, 2-3 petites choses encore. J'ai cette faculté, je sais que tout le monde ne l'a pas, à retrouver le fil de mon propos quand j'ai été interrompu. Vous savez, ce moment où on se dit « Ah ouais, où est-ce que j'en étais ?» Ça ne m'arrive jamais, très 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 rarement. Donc c'est une invitation à m'interrompre. Interrompez-moi, il n'y a aucun souci, d'accord. Je sais exactement où j'en suis, et donc je sais à quel moment je vais repartir. Okay, et puis comme ça, ça permet de créer de l'échange. D'ailleurs, je vais m'arrêter entre chaque partie, et je vais vous demander s'il y a des questions, et donc on prendra le temps. On va essayer de faire ça de façon assez, assez tranquille, et plutôt dans le dialogue. Ça évite aussi que moi, je perde trop le fil de ce que je veux dire en faisant des trop longues tirades. Et une autre chose aussi, c'est que moi je me positionne dans un espace qui est un espace où ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde comprenne ce que je suis en train de raconter, d'accord ? On est dans un espace d'éducation populaire, donc ça tombe bien. Et donc surtout, si vous êtes larmé à un moment donné, n'hésitez pas à le dire. Si vous posez la question, ça veut dire qu'il y a au moins 2, 5, 10, 30, 70 autres personnes qui se posent la même question. Et donc n'hésitez pas à prendre ce rôle-là de dire, mais t'as parlé de ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus de quoi il y retourne. Allez, cette fois-ci, s'il n'y a pas de questions, de réflexion, je pars. Et attention, je vais démarrer direct par les choses les plus importantes. L'eau ne tombe pas du ciel. Il faut arrêter avec ce truc. Vous savez l'expression quand on dit quelque chose tombe du ciel? Quelque part, c'est un peu une fatalité. Voilà, c'est quelque chose qui il n'arrête pas de pleuvoir. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça. Et on n'a pas de prise là-dessus, hein, quelque part. Ou s'il ne pleut plus depuis des semaines et puis que les nappes sont vides, c'est pareil, quelque part. Alors ça, c'est un peu comme ça que j'ai grandi aussi, moi. Hein. C'est un peu l'histoire qu'on m'a racontée. En plus, moi, j'ai grandi dans une famille catholique. Et chez les catholiques, parfois, on met le bon Dieu derrière aussi la météo, les choses qui se passent comme ça. C'est complètement faux. On le sait, et on le sait depuis longtemps, ça fait au moins 30 ans qu'on le sait, l'homme, Homo sapiens, a un impact sur les cycles de l'eau. D'accord ? On a mis du temps, mais on a fini par admettre qu'on avait un impact sur le climat général, d'accord ? L'histoire de CO2, tout ça, vous avez dû voir passer l'info. Et bien, c'est pareil pour les cycles de l'eau. Nous avons un impact définitif sur les cycles de l'eau aujourd'hui. L'homme, si vous faites une représentation des cycles de l'eau dans lequel vous ne mettez pas l'humain, elle est fausse, de base. D'accord ? Ça, c'est très important de comprendre ça. Ça veut dire que nous influençons aujourd'hui les cycles de l'eau et je vais vous raconter de plein de manières comment on le fait. D'accord ? On le fait de plein de manières. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez ce soir, c'est ça. Nous ne sommes plus étrangers aujourd'hui au cycle de l'eau. Alors, c'est quoi les cycles de l'eau ? Comment ça marche ? Et on va se poser une question vraiment très triviale. Mais on est obligé de commencer par la base, sinon on ne peut pas avancer ensemble. D'où vient l'eau de pluie ? Bon, alors, d'où vient l'eau de pluie ? Du ciel, mais je viens de dire que non. Faut écouter. Il n'écoute pas. Alors, de l'évaporation, de la mer, de la terre,
des arbres,
de la respiration, des nuages,
des arbres.
On l'a dit trois fois, des arbres. Hein. Tu l'as dit trois fois. C'est toi qui l'as dit trois fois. Quelqu'un peut amener un autre élément ?
Les cheminées des centrales nucléaires.
Les cheminées des centrales nucléaires. Ah oui, c'est un peu orienté ça. Il n'y aurait pas un sujet derrière, non ?
Toutes les usines.
Tout ce qui est comme ça,
au
hasard. On aurait pu dire la cheminée de n'importe quoi.
Les usines.
Bon, ok. Non, il manquait un mot important, parce que quand on est agronome comme moi, et on se sent un petit peu perdu. Je ne sais pas si vous connaissez des agronomes, mais nous, les agronomes, on a un peu de la peine dans cette société parce qu'il y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est le sol. Voilà. Et il se trouve que les sols font partie de l'équation. Alors, je vous propose qu'on fasse deux paquets. On va faire deux paquets. Le premier paquet, on va mettre toute l'eau qui vient de l'évaporation des mers, des océans, des lacs et des rivières. D'accord ? Tout ça, c'est un gros paquet. Et il y a une hydrologue suédoise qui s'appelle Malin Falkenmark. Il y a 30 ans, elle a proposé d'appeler ça l'eau bleue. L'eau bleue, c'est l'eau qui est contenue, qui est dans les lacs, les mers, les océans, les rivières, et qui du coup va s'évaporer comme ça, et qui va précipiter à un moment donné sur les continents. Okay ? Et puis on va faire un autre paquet, dans lequel on va mettre ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Alors l'évapotranspiration, c'est l'évaporation des sols et la transpiration des végétaux. Donc les arbres de madame. Ça, elle a proposé d'appeler ça l'eau verte. D'accord ? Donc on a l'eau bleue, premier paquet, on a l'eau verte. À votre avis, si on prend les précipitations continentales à l'échelle planétaire, donc toutes les pluies qui tombent sur tous les continents de la planète, et qu'on regarde d'où vient cette eau, quelle serait la proportion qui vient de l'eau bleue, donc qui vient des océans, des lacs, des rivières, des mers, d'accord ? Et quelle serait la proportion qui vient de l'évapotranspiration, donc des sols et des plantes. Alors, je vous propose qu'on le fasse à l'applaudimètre, donc vous applaudissez, il y aura trois propositions, c'est avant tout de l'eau bleue, d'accord, en majorité de l'eau verte, et je sais pas, parce qu'on a le droit de dire je sais pas, d'accord, c'est hyper important de le dire d'ailleurs si on sait pas. Alors, qui pense que c'est, à l'applaudimètre, qui pense que c'est
hein?
Ah, alors on va rajouter une option 50-50 pour madame. L'option 50-50, donc qui pense que c'est avant tout de l'eau bleue, donc de l'eau qui vient des océans, des mers, des lacs, des rivières.
Okay.
Qui pense que c'est avant tout de l'eau verte, donc de l'eau qui vient des arbres et des océans. Il y en a qui applaudissent fort pour faire semblant qu'ils sont nombreux. Qui pense que c'est 50-50, c'est madame. Elle applaudit quand même, c'est sympa. Et qui ne sait pas et préfère dire ne sait pas. C'est pas mal. On a une assemblée qui est quand même pas mal divisée, même si on a senti qu'il y avait des gens qui avaient potassé le sujet avant de venir. Les deux tiers, messieurs, dames, les deux tiers des pluies continentales à l'échelle planétaire viennent des sols et des végétaux. Les deux tiers, d'accord ? C'est pratiquement le double en quantité d'eau quand il pleut, qui vient de l'eau verte, hein, qui vient de nos paysages, hein, par rapport à ce qu'on appelle. Vous vous souvenez, hein, ce schéma qu'on a appris, tout le monde a appris en CE1, CE2, où on a appris que l'eau, elle vient de l'évaporation des océans, après elle est chassée sur les continents, et après elle est retombe. Bah, vous vous souvenez d'avoir appris que, en fait, c'était qu'un tiers, et que les deux tiers, eh ben, ça vient des sols et des végétaux. Ben non, en fait, on n'a pas appris tout à fait le bon schéma, donc on a besoin d'actualiser un peu nos connaissances sur le sujet, parce que, bah, évidemment, il va se passer des choses sur les continents, et peut-être que nos continents, aujourd'hui, ils sont plus tout à fait capables de la même manière d'alimenter les cycles de l'eau que ce qu'ils étaient auparavant. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais avant ça, il y a quand même quelque chose d'un peu vrai derrière l'idée que l'eau elle vient au départ des océans, c'est que en fait une molécule d'eau, quand elle va arriver depuis l'évaporation, donc au départ c'est de l'eau bleue, depuis l'évaporation des grandes masses océaniques, etc., elle va être chassée, elle va tomber sur les continents, elle va ensuite être recyclée, c'est-à-dire elle va être renvoyée. Les continents jouent un peu comme le rôle un peu de trampoline pour cette humidité, donc il y a une partie de l'eau qui va ruisseler, d'accord, qui va finir dans une rivière, qui va retourner dans un fleuve et qui va finir à la mer, une partie de l'eau qui va être stockée dans les nappes, etc., et puis il y a une partie de l'eau qui va être renvoyée, d'accord, sous la forme d'eau verte, hein, comme si un peu les continents avaient cette faculté de transformer de l'eau bleue en eau verte, en la renvoyant comme ça. Et on considère que quand les cycles de l'eau verte sont fonctionnels, une même molécule d'eau comme ça, elle peut être recyclée jusqu'à 5 ou 6 fois, donc elle peut repasser par un cycle évaporation, condensation, précipitation, jusqu'à 5 ou 6 fois avant de retourner à l'océan. D'accord ? Ça, donc les climatologues, c'est des choses qui sont tout à fait intégrées dans les modèles climatiques actuels. On appelle ça le recyclage continental des précipitations. Hein, c'est étudié. Et on étudie aussi, bah tiens, ça fonctionne pas exactement pareil sur partout, sur tous les continents, etc. Il peut y avoir des impacts de la façon dont les continents sont organisés qui vont changer ce recyclage, qui vont modifier ce recyclage continental des précipitations. Et justement, en 2022, il y a eu un moment, peut-être vous avez entendu parler de cette info dans les médias, mais il y a le Centre pour la résilience de Stockholm qui propose ce schéma, le schéma des limites. Alors là, c'est écrit les limites, mais en fait, la traduction la plus juste, ce serait les frontières planétaires. Il y a 9 frontières planétaires, et c'est une représentation, c'est une manière de raconter une histoire, qui est l'histoire que si on dépasse un certain impact sur, sur ces 9 domaines, donc un des domaines c'est par exemple, en ce moment on en parle, c'est l'acidification des océans, parce qu'on s'approche à franchir cette frontière-là, mais on a déjà franchi certaines, comme par exemple le changement climatique, l'intégrité de la biosphère, etc. Et en 2022, ils nous ont annoncé qu'on avait franchi la frontière planétaire des cycles de l'eau douce. Et quand ils ont annoncé ça, les scientifiques de ce centre de Stockholm, ils ont dit, en fait, c'est pas n'importe quel cycle de l'eau qui a été franchi, c'est celui de l'eau verte. Alors l'année d'après, en 2023, ils ont dit qu'on avait fait aussi ça avec l'eau bleue. Et à ce moment-là, ils ont annoncé qu'on avait franchi la limite du cycle de l'eau verte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on fait peser, ce que ça veut dire quand on a franchi une limite, c'est qu'on fait peser un risque plus important, d'accord, sur les capacités d'habitabilité de notre planète pour la vie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, on a franchi une sorte de seuil, parce que ces processus ne sont pas linéaires. Vous savez, par exemple, l'effondrement de la biodiversité, en fait, c'est pas linéaire. C'est pas ça s'effondre. Il y a des moments en fait, où il va y avoir des populations entières qui vont s'effondrer d'un coup parce qu'on a franchi des seuils. Et il se passe la même chose avec l'histoire du franchissement de la limite des cycles de l'eau douce. En fait, on peut franchir à certains endroits des seuils, et c'est ça qui a été étudié par ces scientifiques. Donc on a franchi un seuil, et ça, ce qu'ils nous disent, en fait, c'est que ça va provoquer un certain nombre d'aléas climatiques qui vont se renforcer. Et vous allez voir que ça va résonner, parce que c'est un peu la même chose que ce qui est annoncé avec l'histoire d'augmentation des effets de serre. Ce qui est annoncé, c'est qu'on va avoir de plus en plus souvent des aléas climatiques de type excès d'eau, inondations, crues, etc., et des aléas climatiques de type sécheresse, avec les différents types de sécheresse, c'est très chitou. Sécheresse hydrologique, sécheresse pédologique, etc. En plus, ces événements qui vont être plus fréquents, ils vont être aussi plus forts, ils vont simplifier. Donc, ça c'est ce qui est annoncé. Et donc en creux, ce qui est en fait aussi expliqué par les scientifiques, c'est que les cycles de l'eau verte, quand ils sont fonctionnels, je reviens un peu en arrière, quand il y a un recyclage efficace des précipitations sur les continents, ça a une fonction essentielle, c'est qu'ils permettent de diffuser la pluviométrie dans le temps et dans l'espace. Ils permettent de répartir les pluies. Donc répartir dans le temps, on comprend, on va avoir des pluies plus régulières dans l'année, et donc on va avoir moins de périodes sans pluie, et donc moins de phénomènes de sécheresse. Et en plus de ça, on va avoir une répartition spatiale des pluies sur les continents, ce qui fait qu'on va avoir moins de grandes différences de pluviométrie d'une région à une autre région voisine. Ça ne vous rappelle pas des choses qui se passent un petit peu en ce moment ? Voilà exactement ce qui est annoncé en 2022 par les auteurs de ces études. Alors du coup, la question légitime qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on a cassé les cycles de l'eau douce en général et les cycles de l'eau verte. Je vais plutôt me concentrer sur les cycles de l'eau verte. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que moi, je suis en paix avec mes aïeux. Je suis tranquille avec mon père, mon grand-père et avec les choix qu'ils ont faits. D'accord ? Je suis pas dans une attitude revancharde, dans un besoin de chercher qui est le fautif et pourquoi il a fait ça et puis d'essayer de... Voilà. Je suis pas du tout dans cette énergie. Moi, je suis dans l'énergie d'avancer. Il faut qu'on avance. Et pour pouvoir avancer, j'ai besoin de savoir d'où on vient, pour pouvoir savoir quelles sont les choses qu'il faudrait continuer à faire parce que c'est des bonnes choses qu'il faut faire et quelles sont les choses qu'il faudrait potentiellement arrêter, voire qu'il faudrait changer ou modifier par rapport à ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir qu'en matière de gestion de l'eau dans les paysages, il y a pas mal de choses à modifier. Alors on a eu un impact dans nos paysages de plein de manières différentes et on va se concentrer sur l'agriculture, c'est le domaine que je maîtrise le mieux. Mais aussi, hein, on va parler un petit peu de la forêt, parce que vous allez voir que la forêt elle joue un rôle particulier dans les cycles de l'eau verte. On va parler un peu de gestion des rivières et on va parler un peu d'urbanisation et de gestion des eaux pluviales et de la ville en général. Alors déjà, il y a des choses qui s'est passé depuis ces 50-70 dernières années en France. C'est un truc qui s'est appelé le remembrement. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler du remembrement, mais en gros, une politique publique qui visait en fait toujours les choses pour des très bonnes raisons. Hein. En l'occurrence, pour améliorer la vie des agriculteurs, simplifier la mécanisation, permettre l'entrée des tracteurs. Moi, j'en ai clairement profité. Hein. Enfin, ma famille en a clairement profité hein, du remembrement. Je ne suis pas en train de dire que c'était stupide, etc. On a fait avec les informations qu'on avait au moment où on l'a fait. Simplement, on a simplifié le paysage de manière assez radicale. Hein, comme vous le voyez, 750 000 km de haies qui ont été arrachées à cette époque, donc la moitié des haies du pays, 1 million de pièces d'eau qui ont été comblées dans le paysage, et puis à peu près la moitié des zones humides, et je sais que déjà des politiques d'assèchement des zones humides, il y en avait déjà eu dans le passé, hein, depuis l'Antiquité on en a, mais on a continué dans cette énergie de drainer, on va le voir après, de simplifier les paysages. Alors pourquoi ? C'est quoi le lien entre ce que je raconte avec les cycles d'eau verte et la simplification des paysages ? Eh bien, si vous simplifiez les paysages, vous retirez des obstacles à l'écoulement de l'eau. Et si vous retirez des obstacles à l'écoulement de l'eau, eh bien, vous accélérez le cycle de l'eau. Et ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre pour comprendre le fait que les cycles de l'eau verte ont été dégradés. C'est que le cycle de l'eau s'est accéléré, c'est-à-dire le temps de retour à la mer, il s'est accéléré parce qu'on a moins cette capacité des paysages à retenir l'eau, en tout cas de la ralentir suffisamment pour qu'elle ait des chances de pouvoir être renvoyée en cascade dans ces fameux cycles de l'eau verte. Donc, vous allez voir que ce motif, hein, le motif simplification des paysages, eh ben, c'est un motif qui est répétitif parce que là, on le voit en agriculture, mais après, on verra qu'on a fait la même chose dans les autres domaines. Alors, ça nous donne des paysages qui ressemblent un peu à ça. Alors, ça, c'est chez moi. Dans le Pas-de-Calais, là où j'ai grandi, et je voulais simplement mettre cette photo pour vous dire que on est victime de quelque chose qu'on appelle le syndrome de la référence changeante, où on parle aussi d'amnésie environnementale. Le syndrome de la référence changeante, c'est en quelque sorte cette idée que chaque génération grandit avec des paysages, en l'occurrence là, appliqués aux paysages, avec des paysages qui sont les paysages avec lesquels, moi j'ai grandi avec ce paysage-là. Donc je l'aime, en quelque sorte, si vous voyez ce que je veux dire, c'est un paysage auquel je suis attaché. Et j'ai pas de raison de vouloir le transformer, de vouloir le modifier. Si je discute pas avec mon père et mon grand-père qui m'expliquent qu'en fait, 50 ans auparavant, c'était un bocage hyper dense et que c'était une zone principalement laitière, et qu'en fait, sur ce plateau, c'est le plateau de Montreuil, pour ceux qui connaissent dans le sud du Pas-de-Calais, et ben on a retiré toutes les haies pour laisser la place, enlever l'élevage et laisser la place à la culture céréalière et aux grandes cultures légumières. Et ben en fait, j'ai pas cette historique qui me permet d'avoir une prise sur l'évolution du paysage. Et ça, c'est vraiment très important parce que, comme vous allez le voir après, et ben en fait, on va avoir besoin de transformer nos paysages, parce qu'aujourd'hui, nos paysages, ils jouent plus le rôle dont on a besoin qu'ils jouent dans les cycles de l'eau. Et donc, on va devoir s'attaquer à quelque chose qui, aussi, pour une partie des personnes qui nous entourent, sont des choses auxquelles on est attaché et auxquelles on ne veut pas que d'autres personnes touchent. Et donc ça va créer des problèmes, des tensions dans la société. Bon, donc, le remembrement, ça c'était le premier exemple. Et puis, d'une manière générale, y a eu pas mal de transformations aussi dans les pratiques culturales, dans la façon de cultiver la terre en agriculture. Alors ça nous donne des paysages qui ressemblent à ça, et qui peuvent sembler maintenant, aujourd'hui en 2024, assez anodins. Un sol qui a été un peu tassé en bout de parcelle, là où on fait demi-tour, et puis au moment où il pleut, on a comme ça de l'eau qui s'accumule un peu en surface. Là, ici, au moment d'une pluie, on peut avoir de l'érosion, et puis on a un peu d'eau qui part dans un fossé au bord du champ, entre le champ et la route, classique, normal, quoi. Et puis ici, on a tout bêtement un tracteur au milieu du champ qui est en train de labourer. Pas de quoi fouetter un chat. Un peu si, et même une armée chat. Si on regarde ne serait-ce que par exemple la thématique du sol, alors je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le sol, c'est un truc très spécifique en agronomie, c'est le résultat d'un mélange entre la fragmentation de la roche et la matière organique. Et la matière organique, c'est quoi ? Eh bien, c'est du vivant sous la forme vivante ou morte. Alors je vous invite à venir voir la conférence de Marc-André Sélos, qui est dans pas longtemps et qui est programmée ici même. J'ai quand même d'illustres successeurs en prise de parole, et donc venez voir sa conférence, c'est l'expert du sol qu'il faut entendre. En plus, il est passionnant. Bref, donc, mélange entre fragmentation de la roche et matière organique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant l'arrivée de la vie sur les continents, d'accord, il n'y avait pas de sol, par définition. Il ne pouvait pas y avoir un mélange entre la matière minérale et la matière organique. D'accord ? Donc le sol, c'est quelque chose qui est apparu il y a 400 millions d'années avec l'arrivée de la vie sur les continents. Quand la vie a quitté les océans pour venir sur les continents, une des choses qu'elle a commencé à faire, c'est créer du sol. D'accord ? C'est la première manifestation de l'émergence du sol. Cette création de sol, on appelle ça aussi la pédogénèse, elle a un certain rythme. Le sol se crée à un certain rythme, qui est différent selon si on est proche de l'équateur, où c'est plus rapide, ou proche des pôles, où c'est un peu plus lent. Pas mal plus lent, 5 fois plus long. Donc il faut entre 200 et 1000 ans pour la vie, pour créer 2,5 cm de sol. Voilà, ça c'est le rythme de création du sol. Quand on interroge les scientifiques qui travaillent sur l'impact des pratiques agricoles sur les sols aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est que dans les pays où l'agriculture s'est industrialisée au cours du XXe siècle, on a aujourd'hui une dynamique qui est inverse, c'est-à-dire qu'on perd les fameux 2,5 cm de sol en moyenne tous les 16 ans. Alors comment on fait pour perdre du sol ? Eh bien tout simplement, en fait, par érosion. C'est la principale manière dont le sol disparaît, et notamment l'érosion hydraulique, c'est-à-dire en fait le sol qui est emporté avec les pluies. Confère, par exemple, les inondations dans le Pas-de-Calais l'hiver dernier. Vous vous souvenez, on a entendu beaucoup les agriculteurs notamment, une partie des agriculteurs, et aussi une partie de la classe politique, dire il faut curer les fossés. Et du coup, la question qu'on a le droit de se poser, mais c'est pourquoi nos fossés sont-ils pleins ? Et d'où vient la terre qui a rempli les fossés ? Eh bien, elle vient des champs, tout bêtement. Voilà. Et en fait, on perd la partie superficielle du sol, qui est aussi celle qui est la plus riche en matière organique, régulièrement, quand on a des grosses pluies, parce que la terre se retrouve dans les fossés. Et donc on a besoin d'avoir des pratiques agricoles, on y reviendra, mais qui sont adaptées à ça, qui sont adaptées au fait qu'on a besoin de garder la terre dans les champs, parce que aussi on va avoir besoin simplement d'avoir du sol à l'avenir. On ne peut pas se permettre de décapitaliser, de perdre du sol à cette vitesse. Donc premier problème, on perd du sol. Et deuxième problème, le sol s'appauvrit. Alors le taux de matière organique dans un sol, c'est une des choses qui va, influencer la capacité de stockage d'eau dans un sol. 1% de matière organique dans un sol, alors j'ai changé un peu mon chiffre pour ceux qui avaient déjà eu la conférence, je l'ai baissé un peu parce qu'on m'a dit « ouais, t'exagères un peu, le chiffre, ils sont débattus, tout ça ». Donc j'ai pris un chiffre plutôt à la baisse, pour être sûr de ne pas dire des bêtises. 1% de matière organique dans les sols, c'est environ 150 mètres cubes de capacité de stockage d'eau à l'hectare. C'est comme si vous aviez une pluie de 15 mm qui est stockée dans le sol. D'accord ? Pour 1% de matière organique. C'est quand même intéressant de savoir ça, parce que si on multiplie par l'ensemble des sols français, d'accord, on obtient alors 4,2 km3 de capacité de stockage pour 1% de matière organique. J'avoue, des kilomètres cubes, on n'a aucune idée de à quoi ça correspond. Du coup, comme je suis un peu facétieux, j'ai traduit ça en méga-bassine. Ça, au moins, tout le monde voit à peu près. Voilà. Et donc, ça nous fait 6000 méga-bassines, 1% de matière organique. D'accord ?
Excuse-moi, tu as une petite source pour les 1% de matière organique égale 150 mètres cubes ?
Alors, oui, du coup, maintenant j'ai des sources parce que du coup, j'ai eu des débats avec des gens qui ont trouvé que mon chiffre auparavant qui était trop élevé, et donc j'ai un peu baissé ça. Et donc, je pourrais les partager. En fait, il y a plein de sources qui disent pas la même chose, et donc j'ai finalement pris le moins 10 ans. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes passés en moyenne depuis l'après-guerre de 4% de matière organique dans les sols français à 1,5%. Ça veut dire qu'on a perdu l'équivalent de 15 000 mégabassines de capacité de stockage en eau dans les sols agricoles depuis l'après-guerre. Ça fait réfléchir. Évidemment, puisque là en ce moment, y a des gens qui discutent en disant est-ce qu'il faut faire une mégabassine, 10, 100 ? Il y en a, ils sont vraiment pas d'accord, du coup ils sont allés là-bas pour essayer de les percer, du coup après il y a le gouvernement qui a dû intervenir, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et donc ça fait un peu le bazar dans le pays, et ça fait un peu tâche. Voilà. Et du coup, les personnes qui leur ont expliqué qu'en fait ça coûte hyper cher de construire une méga bassine, et que si Michel Barnier par exemple disait tiens, la priorité pour la France, c'est de remonter le taux de matière organique dans les sols agricoles et on va s'y mettre ensemble. Et on peut faire ça assez rapidement. 1% de matière organique, c'est, par exemple, c'est tout à fait crédible de se dire qu'en 10 ans, on peut recréer 1% de matière organique dans les sols français, avec des pratiques adaptées. Tout à fait crédible, ça, les scientifiques pourront vous le dire. C'est faisable, on sait le faire. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en 10 ans, on peut construire 15 000 mégabassines de capacité de stockage d'eau avec de l'agronomie. Alors vous pensez bien que pour un agronome comme moi, ça serait quand même le bonheur. Quoi. Vas-y.
Pour caler par rapport au territoire, aujourd'hui, le 1% avec 10 ans, c'est quand tu démarres très bas.
Ouais.
Facile d'augmenter. Ici, sur le territoire, on est plutôt à 3,5.
D'accord.
On a une matière organique.
Donc c'est un peu plus lent. Mm-hmm. Ouais, ça, on pourra peut-être pas avoir un delta de...
Les chiffres nationaux
et les chiffres locaux.
Ok.
Donc les moyennes locales sont plus élevées. Ok, super, merci. Yes.
Juste un mot rentrer dans le bruit. Ouais. Ça a quand même été porté par le projet 4 pour 8.
Tout à fait.
C'est un politique qui était en place.
Tout à fait. Tout à fait, effectivement. S'il y en a qui ne connaissent pas parmi vous, il y a eu un projet qui s'appelait, ou qui s'appelle toujours, hein, qui existe toujours, qui s'appelle le projet 4 pour 1000, et dont voilà, c'était l'objet principal, avec en fond aussi la question du stockage du carbone, et donc aussi de la lutte contre le changement climatique par la réincorporation de carbone dans les sols, puisque c'est un des effets, des co-bénéfices de remettre de la matière organique dans les sols, c'est que c'est à la fois bon pour le cycle de l'eau et aussi bon pour le cycle du carbone. Donc, sujet intéressant, la question du stockage de carbone dans les sols et l'impact potentiel sur les cycles de l'eau. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait beaucoup cette logique d'évacuer l'eau. C'est-à-dire qu'une bonne manière de gérer l'eau dans notre... c'est en train de changer un peu, hein, d'accord ? Mais pendant longtemps, une bonne manière de gérer l'eau, c'est de essayer de limiter les risques liés à l'excès d'eau. Alors pourquoi on est rentré dans cet univers-là ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant longtemps, on faisait beaucoup avec l'eau de précipitation, parce qu'en fait, on n'avait pas encore accès à des moyens, notamment du pétrole, etc., pour forer et pour aller chercher l'eau profondément dans les nappes. Et donc, on était bien obligé de faire toutes nos activités, y compris l'agriculture, avec l'eau de pluie. D'accord ? Et puis, on a commencé à avoir les moyens d'aller chercher de l'eau en profondeur. Et ces moyens se sont amplifiés avec le temps dans notre histoire. À partir du moment où ça n'a plus été vraiment un problème d'aller chercher de l'eau et de forer pour aller chercher de l'eau, et ben à partir de ce moment-là, on n'a plus eu du tout dans notre esprit et dans notre manière de réfléchir la gestion de l'eau cette problématique du risque du manque. Et du coup, il n'y avait plus qu'un seul risque, qui était le risque du trop, le risque de l'excès. Et donc, on a développé un certain nombre de pratiques qui ont été toutes orientées dans cette optique de se dire que une bonne manière de gérer l'eau, eh ben, c'est d'évacuer l'eau au fur et à mesure quand elle est présente en excès. Et c'est pas grave qu'on l'évacue, puisque le jour où on en manquera, eh ben, de toute façon, on pourra aller la pomper pour pouvoir combler les problématiques de manque d'eau. Et c'est comme ça que beaucoup de systèmes sont installés.
Je suis agriculteur, c'est un peu réducteur, puisque je connais personne qui peut irriguer 100% de son exploitation. C'est en général une petite fraction.
Oui, bien sûr.
Non, voilà, ça coûte un pognon de fou.
Bien sûr.
Voilà, donc c'est un petit peu réducteur.
Ce que je raconte, c'est la dynamique générale. Je suis pas du tout en train.
Mais c'est pas 100% des surfaces d'une exploitation.
Et bien sûr que voilà. J'ai pas du tout ça.
Ça va bien en disant.
Bien sûr, ok. Donc ok, on peut amener cette chose. Du coup, je reviens un tout petit peu sur les précautions que j'ai prises au départ. Moi, je suis pas du tout dans une optique de jeter l'opprobre ou de dire c'est mal ou c'est pas ça. Je dis juste que c'est ce qui s'est passé dans notre histoire. C'est-à-dire que dans notre histoire, je vais prendre un exemple qui sort complètement de l'agriculture, la gestion de l'eau sur les routes. D'accord ? En fait, l'eau sur les routes, c'est accidentogène. Donc on a besoin d'évacuer l'eau. D'accord ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les aménagements urbains qu'on fait, ils sont organisés de manière à essayer de faire en sorte qu'il n'y ait jamais d'eau sur les routes, pour des raisons évidentes de sécurité. D'accord ? Donc en fait, tout notre paysage s'est organisé petit à petit. Aujourd'hui, c'est normal pour nous que quand on circule sur une route, il y ait des fossés et la route soit bombée et qu'on évacue l'eau le plus possible pour éviter que l'eau elle reste sur la route. D'accord ? C'est tout à fait normal. Simplement, c'est le résultat d'une pensée, d'une manière de penser la gestion de l'eau, qui est une manière de penser qui s'est orientée de plus en plus dans une direction et qui aujourd'hui est en train de s'inverser, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça ne peut pas marcher comme ça. Pas fonctionner simplement en pensant les problématiques seulement liées à l'excès d'eau, d'accord ? Et ce changement, cette manière de revenir un peu en arrière, elle ne date pas d'aujourd'hui, d'accord ? Effectivement, l'eau coûte de plus en plus cher, on voit de plus en plus, on est de plus en plus soumis à des moments où on se dit, en fait là on ne va pas pouvoir juste pomper, etc. Et donc ça fait 15 ans, 20 ans, que même avant la sécheresse de 2022, etc., qu'on a commencé déjà un peu à faire machine arrière et à se dire, bah, tiens, comment on va pouvoir faire autrement, d'accord ? Je ne suis pas en train de dire que on est dans cette croyance que l'eau, elle est toujours présente, etc. Ok ? Mais super, merci en tout cas de ramener de contrebalancer quand mon propos va trop dans une direction. Non, mais c'est important, c'est hyper important. Alors ça, c'est le drainage agricole. Alors, le drainage agricole, moi, j'ai jamais vu, par exemple, vu comme ça, je veux dire, parce que c'est des politiques qui se sont arrêtées il y a déjà un certain temps. Et donc, du coup, on ne se rend pas forcément compte quand on passe à côté d'un champ drainé qu'il a été drainé. D'accord, il n'y a que les agriculteurs qui le savent, quelle proportion de leur champ a été drainé. Et encore une fois, on l'a fait pour d'excellentes raisons. C'est-à-dire que souvent, on a drainé des parcelles parce qu'en fait, on pouvait pas difficilement avoir des rendements équilibrés d'année en année. Hein, surtout que quand on a un sol très lourd, ils ont du mal à se réchauffer au printemps. Et donc, le fait de les drainer, ils vont se réchauffer plus vite. Du coup, on va gagner en stabilité d'une année sur l'autre sur les rendements parce qu'on sait qu'on va avoir des plantes qui vont à pouvoir se développer. On va aussi pouvoir plus facilement rentrer, donc juste simplement venir semer, venir prendre soin de la culture au moment où on a besoin de le faire, sans risquer d'abîmer des sols parce que ces sols sont encore trop gorgés d'eau, etc. Donc encore une fois, il y a plein de bonnes raisons de le faire.
Oui, une petite question. Ouais. Donc voilà. Ouais. Est-ce que c'est du tubage qui a été mis en profondeur ou est-ce que c'est vraiment un drainage de surface?
Non, c'est en profondeur. C'est en profondeur, et ensuite c'est recomblé. C'est ce qui fait qu'on ne se rend pas vraiment compte de... moi, par exemple, je n'avais pas d'idée des proportions. C'est la prochaine diapo, donc je vous pose la question. À votre avis, quelle proportion de la surface agricole française aujourd'hui est drainée? Est-ce que quelqu'un sait, en proportion? Est-ce que c'est plutôt 1%, 10%, 50%? 5%, tu dirais? Ok. C'est 10%. C'est stable depuis les années 2010. On est à 10%, donc ça veut dire que quand vous traversez la France, statistiquement, il y a un champ sur 10 qui est drainé. D'accord ? Donc c'est pas du tout anecdotique, d'accord ? C'est vraiment c'est un vrai phénomène. On a vraiment organisé les paysages de manière à chasser l'eau, de manière à évacuer l'eau de façon plus rapide vers le bas des pentes. Anciennes du réseau hydrographique français, vous verrez que la plupart des rivières méandraient beaucoup plus que ce qu'elles font aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout simplement, on a coupé des méandres, on a essayé de faire en sorte que l'eau, encore une fois, s'évacue plus vite. On a aussi, ça a permis de récupérer de l'espace. Et comme on a eu besoin d'urbaniser, la plupart de nos villes, de nos villages sont installés le long des rivières et des cours d'eau, pour des raisons évidentes, de transport de marchandises, d'accès à la ressource halieutique à une époque, etc. Et bien en fait, aujourd'hui, on est dépendant finalement de ces espaces-là pour développer nos activités, l'agriculture encore une fois, mais aussi l'urbanisation, les zones commerciales, etc. Et donc, ben, du coup, on a essayé de récupérer de l'espace comme on pouvait, et une des stratégies, ça a été de rectifier les cours d'eau. Et puis au passage, ça nous a permis, encore une fois, de sécuriser et de nous protéger des risques liés aussi là au débordement des rivières, par exemple. Et donc en faisant ça, ben, on a aussi stabiliser les berges, on a fait dans ce qu'on appelle du recalibrage, on a essayé de faire en sorte que la rivière, l'eau, elle reste bien dans son lit, d'accord, qu'elle ne déborde pas. Et ça, bah, du coup, ça a aussi conduit quelque part à faciliter une accélération, encore une fois, du cycle de l'eau, puisque bah, le temps d'écoulement, ce qu'on appelle le temps de concentration chez les hydrologues. Alors moi, je ne suis pas hydrologue de métier, donc je découvre, puisque maintenant je travaille avec des hydrologues. Mais le temps de concentration, c'est le temps qu'il va falloir entre le moment où une goutte d'eau arrive dans le cours d'eau et le moment où elle va finalement sortir du bassin versant. Et bien ce temps de concentration, en fait, il s'est réduit. De plus en plus, les gouttes d'eau, elles vont vite vers la sortie. Et vous voyez, voilà une des conséquences, enfin, vous imaginez déjà un peu les conséquences que ça peut avoir. Alors on a fait aussi ça, la simplification des paysages, de façon un peu plus diffuse et un peu plus difficile à observer et à décrire avec les forêts. Alors j'ai choisi forcément une carte, et c'est probablement pas la meilleure carte, mais ce qu'on peut se dire c'est que les forêts, quand on parle des forêts, souvent on se réjouit parce que la surface forestière en France est plutôt en augmentation, de manière constante depuis pas mal de temps, en fait, ça fait longtemps. D'accord ? Mais qu'en même temps, les personnes qui sont spécialistes du sujet nous disent que la forêt n'est pas en bon état aujourd'hui, qu'on a du dépérissement qui s'accentue, et dont une des causes, probablement le changement climatique, en tout cas ça a été bien démontré, bien explicité. Mais déjà, si on regarde la forêt aujourd'hui en France, et qu'on regarde en termes de diversité d'essence, cette forêt, elle est relativement simple. D'accord ? Alors là, je vous ai mis des petits histogrammes. En jaune, c'est les forêts qui ont une essence principale. En vert clair, 2 essences, en vert français, 3 essences, et en noir, 4 essences. Et vous voyez que 80% de la forêt française, en fait, repose sur des forêts où il y a une ou deux essences qui dominent à l'intérieur de la forêt. Donc ça en fait, globalement, des écosystèmes qui sont des écosystèmes relativement pauvres, même s'ils sont très variés. Là-dedans, il y a la forêt qui est exploitée, il y a beaucoup de forêt qui n'est pas exploitée, il y a aussi beaucoup d'espaces qui sont en train de se réenforester naturellement. Enfin, il y a une très grande diversité d'écosystèmes. Mais néanmoins, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est relativement simple. On verra les conséquences que ça peut avoir tout à l'heure. Et enfin, je ne pouvais pas vous parler de l'accélération des cycles de l'eau sans vous parler évidemment de l'urbanisation et du rythme avec lequel on est en train d'artificialiser les surfaces. Donc ça, c'était un petit, voilà, une petite infographie pareil que j'ai trouvée dans les médias, en l'occurrence sur un site d'information généraliste, et qui disait que voilà, on a artificialisé entre 2009 et 2019 l'équivalent de la superficie du département du Rhône en France. Donc ça, évidemment, bah, c'est de la perte sèche hein, pour nos cycles de l'eau verte, puisque qui dit sol artificialisé dit plus d'évapotranspiration immédiatement, et double peine dit accélération, puisque toute l'eau qui va précipiter sur ces surfaces et bah, va se retrouver à accélérer hein, le mouvement naturel de l'eau quand il se retrouve sur une surface qui est imperméable. C'est un phénomène d'accélération et de concentration des eaux, et donc dit gestion de ça, et c'est pour ça qu'on a mis en place la gestion des eaux pluviales, petit à petit, pour essayer de gérer avec des tuyaux de plus en plus gros bah, des quantités de plus en plus importantes d'eau qui ruissellent sur ces surfaces. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première partie? Les deux tiers des précipitations continentales à l'échelle planétaire, c'est de l'eau verte. Ça, c'est la formation, je pense qu'il faut retenir, qui est la première. Une même molécule d'eau peut être recyclée, comme ça, ce qu'on appelle le recyclage continental des précipitations, jusqu'à 5 ou 6 fois. Et c'est ça qui permet de diffuser les pluies, l'humidité sur les continents, et donc d'avoir une bonne répartition de ces pluies, à la fois dans une dimension temporelle, aussi dans une dimension spatiale. Mais du coup, bah, notre manière d'habiter la planète, hein, notre manière notamment d'aménager les paysages, bah, tout ça, ça va avoir une incidence sur justement cette capacité des continents à renvoyer l'humidité hein, sur ces cycles de l'eau verte. Aujourd'hui, on sait qu'on a franchi un seuil critique qui fait que du coup, bah, ça va faire peser des risques de plus en plus grands pour l'habitabilité de notre planète, malheureusement. En France, si on prend la France, le rapport est globalement inversé. C'est-à-dire, en gros, la France est tributaire à peu près aux deux tiers d'eau bleue, un tiers d'eau verte. D'accord ? Mais la Chine, par exemple, à l'autre bout du continent, la Chine, elle est dépendante à 90% de l'eau verte et à seulement 10% d'eau bleue. En fait, c'est assez logique. Vous avez des grands vents, les vents d'altitude dans l'hémisphère nord qui sont plutôt des vents d'ouest en est. Et donc l'humidité en fait, est diffusée sur les continents dans l'hémisphère nord plutôt d'ouest en est. Ce qui fait que du coup tout ce qui se trouve sur des façades maritimes ou à l'est des façades maritimes ou océaniques dans les continents va globalement hériter des premières précipitations et donc de l'eau bleue. Et ensuite, bah, de plus en plus, l'eau qui va arriver, qui va s'éloigner de ces façades-là pour se rapprocher plutôt des façades ouest, et bah, du coup, vont être tributaires de l'eau verte. Donc, alors, c'est une information qui, je ne sais pas ce que vous en faites, vous, mais moi, ce que ça me dit, c'est que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à la façon dont on renvoie l'humidité, puisqu'en fait, tout le monde est dépendant, c'est comme une chaîne, hein, vous imaginez bien, et que tout le monde est dépendant de ce qui va se passer ensuite. Ça va ? Ok, allez, on enchaîne. Alors, je vais vous raconter quelques petites histoires sur les cycles de l'eau verte. L'idée, c'est pas de tout vous expliquer, parce que je comprends pas tout, déjà, et j'aurais des difficultés à tout vous expliquer, mais c'est surtout de vous montrer qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus ancien que nous, et qui est à l'œuvre quand on parle de cultiver l'eau. D'accord ? Et ça, c'est la chose qui est, je pense que j'ai envie de vous partager, hein, c'est que nous, on commence les humains à se poser la question est-ce qu'on pouvait cultiver l'eau ? Mais en fait, bah, ça fait déjà 400 millions d'années que ça existe, puisque c'est à cette époque que sont nés les cycles de l'eau verte. Alors, une des manières de rentrer dans le sujet, c'est de se rendre compte que c'est difficile pour nous de penser l'eau dans des cycles. En fait, quand il pleut, donc quand on est témoin d'une partie du cycle qui est le moment où l'eau elle arrive sur le continent, elle arrive sur nous, d'accord ? Cette partie-là, on est témoin, parce qu'à ce moment-là, on est en train de courir pour s'abriter, on dit « oh là, on va pleuvoir », voilà. Par contre, l'autre partie, celle de la transpiration, de l'évaporation, etc., on n'en est pas facilement témoin. Une des manières dont on peut en être témoin de façon assez originale et intéressante, c'est le phénomène des rivières volantes. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de ça. Alors ça se passe en Amazonie, hein, c'est pas chez nous. Mais c'est une manifestation assez, assez étrange de la façon dont la forêt produit quelque part de l'humidité. Parce qu'en fait, elle va le produire à un endroit qui est un endroit un peu identifié dans le paysage. Et puis ça va former un petit nuage comme ça, qui va être poussé par les vents dominants. En l'occurrence, on est plutôt dans, enfin, on est en, voilà, dans la zone équatoriale et un peu dans l'hémisphère sud, donc c'est plutôt des vents d'est en ouest. Et puis, un peu plus tard dans la journée, il y a un deuxième nuage qui va se former là où s'était formé le premier, puis il va suivre le premier, puis un troisième, puis un quatrième, puis à la fin de la journée, on a un petit train de nuages comme ça qui se suivent dans le ciel, ou qui se sont rejoints les uns les autres et qui font comme une rivière de nuages en ciel, d'accord ? Donc ça, nous, on n'est pas souvent témoins de ce genre de choses. Chez nous, on est témoins d'humidité latente, hein, du brouillard, on peut voir la rosée. Il y a plein de moments où on voit un peu ces histoires de condensation, d'évaporation, tout ça. Et on a du mal à se rendre compte que l'humidité, elle peut être renvoyée vraiment en altitude pour former des nuages. Alors, une des premières choses que nous disent les scientifiques quand on leur pose la question, qu'est-ce qui caractérise un paysage qui est efficace pour renvoyer de l'humidité dans l'atmosphère ? C'est, et nous parle de la rugosité du paysage. Alors, je vous avoue, moi, je n'avais pas vu venir ça. Et ils nous disent, en fait, les paysages qui sont lisses, comme ici à gauche, sont des paysages dans lesquels il va y avoir un réchauffement de l'atmosphère qui va être relativement uniforme. Du coup, il va y avoir peu de turbulences, des turbulences qui sont plutôt caractéristiques des paysages rugueux. Et cette turbulence, en fait, ça va créer quoi ? Ça va créer de la juxtaposition entre des espaces, des zones où l'air va se réchauffer moins vite et d'autres où l'air va se réchauffer plus vite. Et vous le savez, quand on a de l'air chaud et de l'air froid qui s'en vont, ben, en fait, on va avoir de l'air chaud qui est plus léger, de l'air froid qui est plus lourd, on va avoir des vents qui vont se mettre en place, on va avoir de la convection, on va avoir des turbulences. Et donc, on va avoir plus de chances d'avoir de l'humidité comme ça qui va repartir vers l'atmosphère et qui va pouvoir former des nuages. Donc voilà une des toutes premières choses, si on veut faire un portrait robot d'un paysage qui est efficace pour alimenter les cycles de l'eau, et bien en fait déjà la première chose c'est que ce paysage il est rugueux. Alors forcément si on regarde nos paysages qu'on traverse la France, et bien il y a des paysages qui font figure de plus ou moins bons élèves, on va dire. Il n'y a pas longtemps j'étais en Normandie et j'avais encore un peu l'image, moi je ne connais pas bien la Normandie, hein, mais l'image d'un paysage plutôt bocager, etc. J'étais un peu surpris de voir qu'il n'en était plus grand chose. Un autre truc qui touche un peu à des croyances. Moi, je pense que j'étais influencé par les BD d'Astérix, mais je croyais que avant l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, on avait de la forêt partout et de la forêt dense et touffue et tout ça. Et en fait, pas du tout. Quand on interroge encore une fois les scientifiques et qu'on leur demande à quoi ressemblaient les paysages de l'Europe il y a 100 000 ans, ils nous parlent plutôt d'hétérogénéité des paysages. On retrouve par exemple des fossiles de pollen de fleurs prairiales de l'époque qui laissent penser, qui même nous disent qu'en fait il y avait des prairies, il y avait des forêts clairsemées, il y avait des forêts denses, et que tout ça était une sorte de patchwork. Il n'y avait pas des grands ensembles, mais il y avait plutôt une multitude de petits ensembles, de petits milieux qui coexistaient. D'accord ? Et cet effet patchwork, cette hétérogénéité des paysages, c'est quelque chose qui laisse penser aux scientifiques que ce paysage était plutôt favorable à alimenter de façon efficace les cycles de l'eau, d'accord ? Parce qu'on retrouve cette histoire de rugosité finalement dans l'histoire, en regardant l'histoire des paysages. Alors, j'ai dit laisse penser, j'ai pris un peu des pincettes, pourquoi ? Parce qu'il y a encore peu d'études sur le sujet, et qu'on est plutôt pour l'instant dans l'exploration scientifique que vraiment dans des choses qui ont été relues par les pairs, admises, etc. D'accord ? Donc je vous dis quand c'est des choses qui sont plutôt de l'ordre de, comme ça, d'essais ou de tentatives pour essayer de décrire des choses. Un autre truc que je croyais quand j'étais gamin, un jour il y a un autre enfant, il neigeait encore un peu à l'époque dans le Pas-de-Calais, et un jour qu'il avait neigé, un enfant est venu me voir en me disant « Tu sais, au centre de chaque flocon de neige, il y a un grain de poussière. » On vous a déjà raconté cette histoire ?
Non.
Alors qui pense, alors on a le droit de ne pas savoir, donc il y aura la troisième option, qui pense qu'au centre de chaque flocon de neige, il y a un grain de poussière ? À l'applaudimètre. Quelques personnes. Qui pense que non, c'est quoi cette histoire ? Il faut assumer cette position. Qui n'en sait vraiment rien et comprend pas trop de quoi on parle ? Ok. Alors, en fait, c'est plutôt vrai, mais c'est pas assez précis. Déjà, dire qu'au centre de chaque flocon de neige, il y a un grain de poussière, c'est faire une sorte de catégorie flocon de neige, alors qu'en fait, c'est vrai pour toute forme de précipitation. Toutes les précipitations, que ce soit la pluie, la neige, la grêle ou que sais-je, se forme au départ parce qu'il y avait une particule, un aérosol, une particule en suspension dans l'atmosphère. D'accord ? Donc une goutte de pluie ne se forme pas comme ça par hasard au milieu. C'est pas juste parce qu'il y avait les bonnes conditions de température et de pression atmosphérique que vous allez avoir un nuage qui va se former. Il faut qu'il y ait des particules en suspension dans l'atmosphère. D'accord ? Sinon, il n'y aura pas formation. Ces particules, on les appelle des noyaux de condensation. D'accord ? C'est des découvertes qui ne sont pas récentes, encore une fois. Ce que je vous raconte, ça a plus de 30 ans, 40 ans de recul. On sait très bien comment fonctionne le phénomène de micro-condensation et de formation des nuages. Et il faut qu'il y ait des particules en suspension dans l'atmosphère. Certaines particules sont beaucoup plus efficaces pour jouer le rôle de noyau de condensation que d'autres. Par exemple, le sable du Sahara n'a aucun intérêt, ça serait, on aurait des nuages au-dessus du Sahara, mais ne permet pas du tout, ne joue pas du tout ce rôle de noyau de condensation. Si on regarde les noyaux de condensation qui sont les plus efficaces, en fait, on est frappé de constater que, pour l'essentiel, ce sont des formes de vie. Ce sont des virus, ce sont des pollens de fleurs, ce sont des spores de champignons et ce sont des bactéries. 70 à 100% des particules qui font la microcondensation et qui forment les nuages sont en fait des formes de vie, ce sont des noyaux de condensation biologiques. Ça, c'est hyper important de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas à quel point la vie pilote les cycles de l'eau, d'accord, y compris jusqu'à la formation des nuages. Alors bon, je vous avoue, quand j'ai découvert ce sujet, j'ai cru un canular, quoi. Que j'essaie d'être un peu sérieux dans mon métier de scientifique, et là, je me suis dit, non, mais il y a une astuce. J'ai été voir si toutes les dates de tous les articles et tout n'étaient pas tous du 1er avril. Mais non, c'était pas tous du 1er avril, donc il y avait vraiment un truc derrière. Donc du coup, j'ai contacté en France la spécialiste du sujet. Elle est chercheuse à l'INRA d'Avignon, elle s'appelle Cindy Maurice, et elle est spécialisée en phytopathologie, donc en maladies des plantes. En l'occurrence, elle est spécialiste du blé et des maladies du blé. Et en étudiant le blé et les maladies du blé, elle a découvert toutes les bactéries et les types de pathogènes qu'on peut trouver sur le blé, et parmi ces pathogènes, il y en a un d'ailleurs qui n'est pas un pathogène très important du blé, et c'est une bactérie qui s'appelle Pseudomonas syringae. Et il se trouve que Pseudomonas syringae, retenez son nom, hein, et ben c'est la spécialiste de la formation des nuages. De toutes les formes de vie qu'on peut trouver en altitude et qui sont susceptibles de créer de la microcondensation et qui sont susceptibles de former des nuages, c'est la plus efficace. C'est aussi la plus répandue. Elle est présente sur l'essentiel des végétaux, donc 70% des végétaux qui nous entourent hébergent Pseudomonas syringae parce qu'elle vit et elle se multiplie sur la face antérieure des feuilles des végétaux. C'est là où elle vit. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les végétaux poussent, hein, d'accord, tant qu'ils font de la photosynthèse et qu'ils font du coup de la transpiration, et ben en plus de produire de l'humidité, et s'il y a un paysage rugueux et que cette humidité elle repart dans l'atmosphère et tout ça, et bien avec cette humidité, elle va aussi emporter avec elle des Pseudomonas syringae qui vont se retrouver dans l'atmosphère et qui vont créer littéralement les nuages. Alors l'année dernière, avec les collègues des alvéoles, on a organisé un événement qui s'appelle le Festival des Jardins-Forêts. Et du coup, j'ai invité Cindy Maurice et je l'ai interviewée. On a enregistré cette session, c'est un webinaire que vous pouvez trouver sur internet, sur la chaîne des alvéoles. Si vous tapez les déclencheurs biologiques de la pluie Cindy Maurice, vous apprendrez grâce à elle comment une bactérie s'y prend pour faire tomber la pluie. Alors je vous préviens, c'est un poil technique, c'est de la science, quoi. Mais du coup c'est assez intéressant. Bon, ça y est, on commence à avoir un vrai portrait robot dans l'histoire d'Auvergne. On a des plantes qui produisent de l'humidité, on a des paysages qui sont organisés avec une certaine rugosité, qui du coup créent des vents qui vont du coup être susceptibles de pouvoir envoyer cette humidité. Avec cette humidité, on a des pollens, des virus, des bactéries, etc., qui jouent le rôle de notre condensation, qui du coup forment les nuages et peuvent même provoquer la pluie. Et ben voilà, ça y est, on a commencé à faire un tour de notre histoire de cycle de l'eau.